tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Ce que vous allez écouter est un épisode un peu spécial. Pour mieux vous expliquer les choses, j'ai envie de vous raconter une histoire vraie. Je suis passionnée par l'écrit, l'information longue et les médias depuis toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai failli racheter un journal. Un titre de presse que je lisais depuis sa création en 2009. Pour la première fois, j'avais entre les mains un journal qui n'objectivait pas la femme, mais s'adressait à son cerveau. Une sorte de troisième voie entre les féminins et les news généralistes. Libertaire, sarcastique et transgressant toutes les règles de la presse féminine. Parce qu'à l'époque, j'en avais un peu marre de refermer les journaux bourrés de pubs qui, grosso modo, me disaient que j'étais pas assez belle ou que mes armoires n'étaient pas assez remplies, que je vais perdre 3 kilos avant l'été ou encore m'acheter 4 rouges à lèvres par semaine. La baseline, c'est plus féminine du cerveau que du capiton. Ce journal, c'est Cosette. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il a défrayé la chronique dans le milieu de la presse indépendante, alors que tout le secteur vivait une immense crise. Quand on dit presse indépendante, ça veut dire deux choses. D'une part, le journal ne dépend pas d'un groupe de presse, mais d'autre part, qu'il ne dépend pas de la publicité, mais de ses abonnés et de ses ventes en kiosque. Et ses abonnés à Cosette, ils ont été 22 000. Le journal a atteint des scores de diffusion et de vente absolument fous, et un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Et puis en 2016, patatras, il est placé en redressement judiciaire, et c'est à cette époque que je travaillais sur un plan de reprise. Pour y parvenir, j'ai eu envie de retrouver l'âme du journal, les personnes qui en étaient à l'origine et qui incarnaient ce projet hors du commun. C'est ainsi que j'ai rencontré la femme extraordinaire que vous allez entendre s'exprimer. Elle est cofondatrice de Cosette. Elle fait partie de ces femmes non seulement inspirantes, libres, puissantes, authentiques, mais surtout très drôles. Alors aujourd'hui, je ne lis plus Cosette, mais un an après le mouvement MeToo et le redressement judiciaire du titre, j'ai eu envie de revenir aux sources de l'impact positif qu'il a été il y a 10 ans. Car cette femme, classée par Slate comme l'une des plus influentes de France, a fait bouger les lignes du réel, par une vision d'un féminisme inclusif et non excluant. En cela, elle a contribué à faire évoluer la place des femmes dans notre société. Alors pour la petite anecdote, on a enregistré l'épisode avec elle, chez elle. Si vous sentez des différences dans les niveaux sonores, c'est juste que Liliane, quand elle s'exprime, elle est passionnée, donc elle a beaucoup bougé. Sur la table du salon, il y avait un petit apéritif, des jus de fruits frais, de circonstance, et des fortune cookies. Vous savez, c'est ces petits gâteaux avec un message dedans. Alors le mien, c'était une citation de Voltaire qui dit « Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme ». Eh bien, je peux vous garantir une chose, quand vous aurez écouté cet épisode, vous allez en avoir de l'enthousiasme. Je pense aussi que vous allez être surpris par sa vision, qu'elle va vous donner envie de réfléchir, et surtout, je pense qu'elle va vous faire rire. On a parlé de plein de choses avec Liliane dans cet épisode, de l'époque Charlie Hebdo, de vibrations féminines, de l'amour pour nos hommes, de migration, d'énergie et de chocolat. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse place à mon invitée, la cofondatrice du magazine Cosette, Madame Liliane Roudière. Alors bonjour Liliane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonsoir Estelle.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Présentation minimale, donc je m'appelle Liliane Roudière et je suis la cofondatrice de Cosette et j'ai dirigé ce journal du début jusqu'en 2016 et depuis 2016 je prépare d'autres choses.
Très bien, tu nous en diras peut-être un petit peu plus après. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant Cosette, en fait, d'où tu viens, tout ce qui t'a conduit à arriver chez Cosette ?
Alors en fait, moi j'ai une histoire assez simple. Je viens de la ville de Tulle en Corrèze. Je suis née là-bas de grands-parents paysans, de parents qui pour la première génération sortaient de ce monde. C'était un milieu assez isolé quand même, où la culture avait de la difficulté à arriver. Alors, j'en bouffais un peu partout. Il y avait des ciné-clubs, c'était une période assez riche. Il y avait des ciné-clubs, j'écoutais beaucoup la radio, je faisais du théâtre. J'étais fascinée. Déjà, je lisais beaucoup. J'étais fascinée par le cinéma, la littérature. Et donc... Ensuite, je le raconte parce que ça va être un petit lien. À 14 ans et demi, je suis tombée amoureuse du chanteur de la ville, le plus bel homme de la ville et qui chantait très bien et des belles choses. Donc forcément, je suis tombée amoureuse. J'ai eu la chance que ce soit réciproque. Et puis, nous avons eu une fille, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac.
Wow.
Donc, c'est là où il faut un peu la vie, le réel vous rattrape. Moi qui rêvais tout le temps, je m'imaginais toujours avec des hommes qui chercheraient, qui m'aimeraient. J'avais une vision très, très romantique. Emma Bovary, ça pouvait être moi. C'était, parce que c'est là où on voit l'influence de la littérature sur notre imaginaire. Donc, quand ma fille est arrivée, là, on était dans le réel. Je me suis dit, il va falloir que je fasse quand même, que j'apprenne un métier. Je voulais faire du cinéma à l'époque. J'ai vite fait des études d'analyste programmeur. Et puis, ensuite, une fois que j'ai eu ça, j'étais toujours à Tulle, mais là, j'étouffais. Je me disais, et je me suis rendu compte de la double acception du terme j'étouffais, puis en même temps, du verbe étouffer, quoi. J'avais tout fait, et en même temps, j'étouffais. Donc, j'ai envoyé un petit mot à 3 ou 4 personnes à Paris que je ne connaissais pas du tout, mais que j'appréciais, dont l'attachée de presse des Francopholies, en lui disant je suis informaticienne, je peux vous informatiser votre service de presse, mais si vous n'avez pas d'argent, en échange, vous me prenez. Et ça a matché tout de suite. Donc c'est comme ça que je suis arrivée aux Francopholies. J'ai été attachée de presse pendant quelques années. Ensuite, je me suis mise en indépendante.
Mmh. Ça devait être une sacrée période quand même.
C'était extraordinaire. Tout était extraordinaire. Enfin, déjà à ce moment-là, sur place, je me rendais compte que c'était extraordinaire cette vie parce que on avait peu d'argent, mais on avait tout à portée. Mmh. Le travail, on cherchait pas de travail, il y en avait tout le temps. Moi, j'ai fait des tas de petits boulots. C'était la première génération qui renonçait à être fonctionnaire toute sa vie, sûr. Au détriment, au grand dam de mes parents qui étaient catastrophés, qui s'étaient battus. Pourquoi alors si nous, on ne devenait pas des ingénieurs, des professeurs, et aux Francopholies, c'était magnifique aussi parce que c'était un vrai bouillonnement d'artistes. C'était encore un petit festival. On était avec eux tout le temps. C'était assez magique. Ensuite, je me suis mise en indépendante parce que ce qu'il y a de récurrent chez moi, c'est qu'à un moment, au bout de 5-6 ans, je m'ennuie. Je me dis,
je crois que c'est récurrent chez pas mal de monde, finalement.
Mais il faut sauter le pas. Bah oui. Et c'était compliqué parce que, entre temps, je m'étais séparée. Donc, j'étais toute seule à Paris parce que j'avais amené Marie et enfants à Paris. Et puis, j'étais seule avec ma fille. Et donc, je me suis mise en indépendante. Ensuite, en indépendant tout de suite, Philippe Val de Charlie Hebdo est venu... Non, il n'est pas venu me chercher. C'est Olivier Poubelle qui est venu me chercher de chez Astérios, qui est venu me chercher pour être l'attaché de presse de Philippe Val.
Ouais.
Il le produisait à l'époque. Et puis Philippe, avant même la fin de... C'était pour 7 semaines à l'Européen, je me souviens. Et au bout de la 2e semaine, il m'a demandé si j'ai passé un petit entretien avec Cabu et lui pour m'occuper de... pour faire la presse. J'étais attachée de presse, donc aux Francopholies. Et pour faire attachée de presse et diriger la com... J'emploie ce mot-là aujourd'hui, on n'employait pas du tout ces mots-là. C'était si tu peux t'occuper de tout ce qu'il y a à faire, quoi. En gros, la com, la presse... Et j'ai vécu 10 ans de bonheur auprès d'eux. Et j'ai passé 10 ans de bonheur auprès d'eux. Et puis, pareil, je me suis un peu ennuyée. Puis, il y a eu l'affaire Ciné qui a éclaté. Et là, j'avais plus du tout envie de cautionner des mauvais comportements. Et puis, je suis partie chez Ciné. Pendant 1 an, je fais le lancement. Entre-temps, on m'avait proposé Cosette. Et donc, j'ai fait le lancement aussi, tout de suite. J'ai une année 2008-2009.
Entre-temps, c'est-à-dire au même moment, quasiment.
En même temps, j'ai fait les deux en même temps. Là, ça a été une année très, très compliquée parce que je travaillais tout le temps. Je travaillais sur les deux magazines.
Donc, c'était en 2009.
2009. Et puis voilà, et ensuite donc bah, j'ai voilà, il y a eu toute l'aventure Cosette qui mériterait 7 tomes et pour être racontée. Mmh. Et voilà.
C'est quand même une aventure incroyable, Cosette. Enfin, oui. Bah, on s'est rencontrés à cette occasion, donc oui. On connaît. J'en connais moins que toi, mais je connais un peu. Je connais bien le journal. C'est quand même un cas à part dans la presse, oui, indépendante, parce que c'est un journal qui a cartonné très vite, qui n'était que en kiosque et sur abonnement, qui n'avait que 4 pages de pub, je crois, par numéro. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui t'a d'abord donné envie d'y aller ? Tu vois, qu'est-ce qui t'a attiré, mmh, vraiment comme... est-ce que c'est parce que tu sentais qu'il y avait un manque dans la presse féminine, ou est-ce que t'aimais l'ambiance, ou est-ce que qu'est-ce qui a fait que...
Bah, moi, j'étais assignée en train de faire le lancement de ciné. J'ai été très bien parce qu'il y avait une, comme dans tout ce qui démarre, il y avait un immense brassage, de brassage d'idées, de personnes, c'était très très bien. Et là, c'est Grégory Lassudebas qui est venu me dire, au fait, je vais monter un magazine féminin et j'aimerais que tu en fasses partie. Moi, j'ai pas fait très très attention au début. Mmh. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu voudrais bien écrire dans le journal, et puis bien sûr faire le lancement, ça je m'en doutais un peu.
Et Grégory travaillait chez...
Ah oui, Grégory, je l'avais connu, il était stagiaire chez Charlie.
Ouais.
Donc je m'en étais pas mal occupée aussi. Et donc voilà, il est venu me voir et je lui ai dit, bah oui, et puis je lui ai proposé quelques sujets. On a discuté de la ligne rédactionnelle, celle qu'il avait commencé à travailler, à imaginer avec Bérangère Portalier, qui était de l'aventure aussi dès le début. Et voilà, et puis il me disait, voilà, on va faire un journal féminin, mais un féminin où il n'y a pas... où il n'y a pas de d'injonction au régime, au maquillage, à la mode. On veut prouver que voilà, la femme s'intéresse à autre chose. Et moi, tout ça me paraissait tellement évident que bah, je dis oui, bien sûr. Mais
oui, mais c'était le seul. Enfin, finalement, bah, dans l'environnement, c'était le seul à faire ce genre de... à avoir cette démarche-là et cette ligne éditoriale.
Complètement. C'était tellement simple. Le postulat était, et si la femme avait un cerveau. Donc voilà, comme on disait, les études sont en cours, mais a priori, oui. A priori, oui, on vous dit.
Mais donc, du coup, je pense que c'était... ça devait être une époque assez incroyable, parce que ça devait être super
excitant. Moi, j'ai été absolument enchantée, parce que... Donc, j'ai quitté tout de suite, au bout de 2 ou 3 mois de Cosette, j'ai quitté Ciné, parce qu'il fallait choisir.
Ouais.
Et mon camp, je l'ai choisi, parce que, on allait vers quelque chose de plus féminin. La presse d'extrême-gauche, j'en avais aussi ras-le-bol, parce que je trouvais que, on défend des bonnes idées, mais on fait pas toujours ce qu'on défend. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose que je ne supporte toujours pas très très bien, même si je comprends que bref. Mmh. Et l'aventure Cosette, c'était pour moi, ça a été un truc d'ado, ça a été un truc de groupe de rock, ça avait, ouais, la même énergie,
c'est ça,
que ça. C'était du rock pour moi qui venais de la musique, c'était, ouais, extraordinaire, parce que il y avait un mélange de gens qui étaient formidables. On se réunissait dans le salon de Gilles Bonjour, qui était un cofondateur aussi. On mettait nous-mêmes, on corrigeait nous-mêmes les papiers dans un bordel, mais c'était inouï parce que on se rendait pas compte, mais le papier, on le faisait corriger par 4 personnes différentes qui mettaient 4 avis différents. On mettait sous pli les abonnements nous-mêmes. On s'est arrêté qu'à 1000 parce qu'après, on pouvait plus. On a tout fait. C'était tellement simple.
Il y avait combien de personnes au tout début ?
Alors, il y a vraiment quatre principales, mmh, 4 personnes principales. Ensuite, il y a eu beaucoup de pigistes, de gens comme ça. Et après, on a dû fonctionner avec une petite équipe de 6-7, quoi, à peu près. Mais entre la maquette, la correction, tout.
Et la sauce a pris très rapidement.
La sauce a pris très rapidement. On a fait un lancement très réussi. Moi, je m'attendais plutôt à un fanzine. Et quand j'ai vu arriver le journal, je me suis dit, ah, waouh. Il y avait une vraie ambition quand même, parce qu'il y avait l'ambition de l'image, de la photo. Il y avait l'ambition du papier qui était magnifique.
Oui, esthétiquement, voilà, c'était un beau journal.
Il y avait une vraie réflexion. Il était vraiment magnifique. Et je crois que la presse, nos collègues nous ont énormément aidés, parce que Nous, on s'est battu juste avec le bouche à oreille. La presse nous a aidés. Celles qui nous ont le plus aidés, ce sont les lectrices. Les lectrices se sont emparées.
La force de ce journal, c'est sa communauté.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une communauté qui s'est créée, qui a dit « Ah, enfin, vous existez. »
Enfin, vous existez, on est comprise.
Voilà. Et en plus, il y avait de l'humour, quoi. On disait bien, on s'adresse aux femmes normales, mais pas banales. C'était plus féminine du cerveau que du capiton. Puis, il y avait beaucoup de joie là-dedans. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Alors, ça a démarré tellement vite que, bien sûr, il a bien fallu que ça explose à un moment parce qu'on a atteint les 100 000. On a fait la une du Times en Angleterre. On a parlé du nouveau féminisme en France par rapport dans les journaux espagnols.
As été une des femmes les plus influentes de France.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'étais très étonnée. J'étais 37e.
Voilà.
37e sur 100, ouais, ça c'était en 2013. Ouais. Mais comme je préparais le numéro 37, les gens appelaient en me disant félicitations pour le 37. Je me disais, mais il n'est pas fini le 37. Et c'est-à-dire que moi j'avais un peu toujours la tête dans les papiers, quoi.
Tu bossais beaucoup.
Toutes et tous beaucoup. Et donc voilà. Puis donc en 2013, il y a eu une explosion au sein du journal sur. On était fatigués. Il y avait un mauvais management dont je faisais partie. Enfin, on faisait tous partie du management. On était tous quelque chose. On était deux ou trois rédacteurs adjoints, machin. Il y avait deux directrices artistiques. Tout le monde voulait des titres. Moi, je m'en foutais complètement. Et j'ai revécu quand je dis que c'était comme du rock.
Oui, c'est ça.
Ça s'est passé exactement comme j'avais vu au Festival des Francopholies pendant 6 ans. Le groupe de rock qui marche, et quand ça marche, ça explose parce que les égos se développent. Et puis la ligne aussi commençait à. Cette ligne qu'on protégeait vraiment beaucoup, c'est-à-dire de s'adresser à toutes et d'être un journal féminin et pas militant, de faire passer un militantisme beaucoup plus doux. Moi, je voulais prendre les chemins de traverse, y aller avec l'humour. Et ça marchait. Ça marchait très, très bien. Et puis voilà. Puis ça a explosé et ça a été. Super dur. Après, on s'est un peu remis un peu sur le. Voilà, il y a eu des gens qui sont partis, on en a pris d'autres et tout. Ça a été une deuxième vague, on va dire, parce que ça n'a jamais été tout à fait comme avant. Et voilà.
Donc, on sait qu'aujourd'hui, Cosette n'est plus à Grégory. Enfin,
oui, voilà. Ça a été vendu.
Ça a été racheté par deux messieurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, dans la presse féminine, cet esprit donc, que tu décrivais tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore le cas ? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui quelque part dans la presse féminine ?
Non. C'est-à-dire que moi, aussi que j'ai quitté.
Non.
J'ai quitté Cosette en 2016 parce que pour des raisons personnelles, j'étais vraiment fatiguée, j'étais lasse parce que c'est énormément de travail, c'est 70 heures de travail par semaine, c'est beaucoup de travail. Cette crise de 2013 m'avait beaucoup affectée, beaucoup, beaucoup profondément. Et elle s'est malheureusement. Il y a une autre vague qui est arrivée qui a été pire pour moi, c'était les attentats de janvier 2015. Là, j'ai perdu tout le monde, j'ai perdu tous mes collègues, mes potes, mes amis. Là, il a fallu que je m'assoie un peu, quoi. Il a fallu que. J'ai pas compris ce qui s'était passé. J'étais en état de choc. Alors en 2016, je me suis dit, je m'en vais, puis je voyais que la ligne. Celle qu'on devait tenir, celle à laquelle je tenais. C'était de plus en plus difficile. Avec la rédaction, il n'y avait plus la majorité qui était de cette ligne-là. C'était une ligne plus radicale, une ligne plus binaire, une ligne plus féministe, mais féministe avec excluant, pas le féminisme inclusif, pas le féminisme...
conciliant.
Oui,
enfin, conciliant,
universel, vu comme un humanisme. C'était donc.
Enfin,
c'était
comme un facteur de progrès social.
Tout à fait, tout à fait. C'était plus du règlement de compte, de ressasser le côté victimaire. J'avais de plus en plus de mal à quand on avait un sujet, Moi, je le dépouillais, ce sujet. En général, je le faisais dépouiller, je le dépouillais à fond et j'essayais de trouver comment le traiter autrement, quel angle on n'avait pas encore vu, de quoi ce sujet était-il le nom. Au lieu de traiter le sujet, c'est quel, vers quoi on allait. J'avais toujours ma vision sur demain, pas sur aujourd'hui, sur demain. La liberté complète. Pour moi, je voulais une liberté. C'est pour ça, quand il y avait eu cette crise, moi, j'ai pas rejoint le mouvement parce que de grève, etc. Je trouvais ça tellement stupide. Je me suis dit, vous vous rendez pas compte la liberté qu'on a dans ce journal. Il y a des trucs qui vont pas, c'est certain. Moi, j'ai fait des papiers de 17 pages, des dossiers de 17 pages quand ça valait le coup. On avait toute la liberté. C'était à nous de nous réorganiser.
On parle de crise, mais tu peux expliquer un petit peu plus ce qui s'est réellement passé? Parce qu'en fait, il y a eu à la fin, comme tu dis, une grève, etc. Mais qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur, tu vois? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
Je dirais, le facteur déclencheur, ça a été pour moi la fatigue générale. Ça a été une erreur de management, effectivement. On avait à notre tête Grégory Lassu de Bas, qui est une boîte à idées permanente, un zébulon qui saute partout. Donc, il a toujours 15 idées à la demi-heure. Et pendant qu'on est en train d'en réaliser une, il en a une autre. Enfin, voilà, on pouvait être dérangé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui amenait beaucoup d'idées. Donc, je pense qu'il y a eu des crises d'ego aussi, des gens qui voulaient, qui voulaient prendre le pouvoir aussi.
Un petit côté aussi, quelque chose qui est dû à la génération. Enfin, est-ce qu'il y avait une
rupture générationnelle? Je me suis beaucoup posé la question parce que moi, j'étais la plus âgée de Cosette. Moi, j'avais pas encore 50 ans, mais j'y étais presque. Et ensuite, c'était plutôt des gens jeunes. Je me suis demandé si c'était ça. Bon, la suite m'a prouvé qu'on pouvait être très con à 50 ans aussi, puisqu'il y en avait qui étaient...
Non, mais bien sûr. Exactement. Non, mais ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce que... c'est pas du tout un jugement de valeur, parce que c'est pas du tout du jeunisme ou quoi que ce soit. C'est est-ce que la vision, tu vois, défendue par une génération et puis celle défendue par une autre... Est-ce que peut clasher au sein d'une rédaction?
La vision qu'on avait, on la portait, par exemple, Grégory, Bérangère. Grégory, il avait 30 ans à l'époque. Bérangère, pareil, ou 25, je ne sais plus, 27. Donc, on était justement assez mixés à la tête.
D'accord.
Bon, il y avait quelque chose d'assez mixé. Ensuite, je me suis posé cette question, en tout cas. J'ai pas su y répondre vraiment, quoi.
Bon, en tout cas, donc, t'es partie de Cosette en 2016.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que tu as des coups de cœur? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'intéresse sur la cause féminine en particulier?
Alors moi, la cause féminine, il faut dire que je l'ai quasiment découverte avec Cosette. C'est-à-dire que pour moi, être une femme, ça n'avait jamais été je ne m'étais jamais présentée comme un problème. Je ne le présente toujours pas comme un problème, mais pour ma part à moi. Grâce à Cosette, grâce à toutes ces discussions hyper enrichissantes qu'on a eues, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert, ça allait de la... comment ça s'appelle la coupelle anti-règles. Je savais pas que ça existait, mais on a été alpaguée très tôt. Oui, vous parlez pas de la coupelle anti-règles. J'ai dit, mais je sais pas ce que
c'est. Donc, la coupelle anti-règles, on peut le dire quand même, c'est un truc qui te permet de pas avoir tes règles, c'est ça?
Pas du tout.
Ah.
Non, c'est que tu mets plus de tampons, tu mets
mais ce que je veux dire, c'est que ça arrête le. Oui.
Ça arrête le flux, mais après, c'est un entonnoir que tu te mets, puis après, tu vas l'idée. J'explique, hein.
Voilà. Oui, mais tu vois comme quoi, mais moi je le savais pas.
Mais moi, ce qui m'a paru un peu comme ça, un peu trop, quoi, un peu too much, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Sauf que j'aimais pas comment on nous demandait, vous parlez même pas de la coupe. Ben oui, mais on sait pas ce que c'est. Explique-nous gentiment, puis on va voir, quoi. Et puis il y avait aussi, vous rendez pas compte, vous parlez jamais du chénis. C'est quoi le chénis? Donc c'est un pénis.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a presque eu des. Oui, pardon.
C'est un pénis. Le chénis. Donc le chénis, c'est le pénis for chi. Donc pour faire pipi debout, tu mets un faux pénis, etc.
D'accord.
Donc il y avait des combats comme ça féministes qui me saoulaient.
Ah ouais.
Mais en même temps, ça existe. Et puis j'ai découvert, par exemple, alors là, on s'élève un peu, Françoise Héritier. J'ai découvert tout son travail. J'étais éblouie. Éblouie de quelqu'un qui puisse être une passeuse de cet ordre-là, c'est-à-dire que moi qui connaissais rien au féminisme, qui suis toujours pas une théoricienne et qui ne le deviendrai jamais parce que c'est pas mon boulot, moi j'ai découvert des choses merveilleuses et Et je me suis rendu compte de comment je m'étais conduite dans ma vie, que c'était en fait plein d'évitements dus au fait d'être une femme. Je savais naviguer, je savais louvoyer, je savais me protéger. On me l'avait pas appris, mais je l'avais compris. Mmh. Et j'ai vécu des années absolument merveilleuses d'apprentissage, et je pense que pour toutes, je ne connais pas une fille qui soit sortie de Cosette, contente ou pas contente, pour qui ça n'a pas été un incubateur extraordinaire, ce
et
journal,
responsabilisant, parce qu'en fait,
voilà. Ça, c'était extrêmement responsabilisant.
Parce que tout le monde avait.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Finalement, son pouvoir, c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que ça a explosé aussi un peu socialement, c'est que les filles étaient, la rédaction était assez libre.
C'est ça, c'est ce que j'appelle l'erreur de management majeur, c'est-à-dire qu'on avait rêvé, on rêvait d'un autre monde, hein. Même à mon âge, on rêve encore d'un autre monde, et donc un monde où on pourrait fonctionner à l'horizontale. Ça a été une déception pour moi, de voir que non, il faut une verticalité.
Ben, c'est un bon enseignement, parce que finalement, c'est pas le cas que dans une rédaction. C'est aussi, à mon avis, quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Et trop d'horizontal tue l'horizontal, finalement. Est-ce qu'on peut parler un peu de... On est à un an de MeToo, de hashtag MeToo. Est-ce qu'on peut en parler... Enfin, quelle est ta vision des choses un an après? D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement, et puis
J'ai trouvé que c'était quelque chose de... J'ai trouvé que cette affaire Weinstein et MeToo, après, c'était extraordinaire. J'ai pensé que c'était quelque chose de inouï, que c'était historique. Et d'ailleurs, c'est toujours compliqué quand on pense que c'est historique, mais après tout, est-ce que j'ai raison? Et j'ai sorti l'histoire des sexualités là, de l'Antiquité à nos jours, donc 25 siècles sur la sexualité en Europe, et les historiennes c'est aux éditions PUF, c'est magnifique, et les historiennes qui ont dirigé cet ouvrage, on leur a posé la question: pour vous, MeToo dans l'histoire, sur 25 siècles, est-ce que c'est une petite virgule ou est-ce que ça va marquer l'histoire? Et elles ont dit non, que c'était une marque dans l'histoire, que c'était historique.
Bien sûr.
Et voilà, et moi j'ai trouvé que que c'était quelque chose de merveilleux, parce que la parole des femmes est entendue. Je pense qu'il est arrivé à toutes ces femmes et à tous les hommes qui se sont penchés un peu sur le problème. Ils ont fait comme moi, Cosette, ils ont découvert dans les replis comme ça de notre quotidien tout ce qui était de l'ordre de cette domination masculine qu'on supportait depuis des millénaires, même si ça s'était un peu arrangé, en termes de droits sociaux, en tout cas pour les femmes. Et je pense qu'il est arrivé à ces gens-là ce qui, moi, m'est arrivé en travaillant sur ce terrain-là. Et j'ai trouvé que c'est... J'ai trouvé ça merveilleux, et j'en ai été fort inquiète tout de suite, parce que j'ai vu que ça partait pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment conscience, on écoutait les femmes pour une fois, c'était pas la première fois qu'elles prenaient la parole. Mais pourquoi à ce moment-là c'est Weinstein et pas un autre? Pourquoi ça s'est pas fait à DSK? Je ne sais pas. Peu importe, le symbole est là, c'est ça.
Puis il a peut-être fallu un DSK avant pour qu'un Weinstein.
Je pense que c'est une suite de cause à effet. C'était le moment, c'est comme ça. Et après il y a eu ce relais quasiment immédiat avec le Balance ton porc, qui a créé plein de malentendus, je pense aussi on a parlé de délation. Il y a eu une grande confusion entre ce qui était de l'ordre de
privé et professionnel,
de l'ordre de la drague ou de l'ordre du consentement. Mais finalement, c'était normal aussi qu'il y ait beaucoup de se perdre un peu là-dedans. C'est tellement nouveau. Les gens découvraient, découvrent à peine que, et même les femmes découvrent à peine que, oui, comme moi, elles ont louvoyé, elles se sont habituées, elles ont ricané quand on les draguait trop fort. Quand on est bon, voilà. Et ça, il faut que ça continue absolument. Et tu me demandais dans la presse aujourd'hui. Mmh. Alors, dans ce que je vois, toujours pareil, il y a parfois des bons papiers, mais je trouve qu'on reste encore sur le mode binaire, quoi. La femme victime et l'homme très, 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 très coupable. Mmh. Je pense beaucoup à Leonora Milano. Si je peux dire un extrait de...
Bien sûr.
Parce qu'il faut des gens pour exprimer des choses. Un jour, on a la pensée, puis tout d'un coup, on n'arrive pas à l'exprimer. Et
je suis bien d'accord.
On lit quelque chose et ça nous éclaire. Et ce que dit Leonora Milano, elle dit qu'un monde connu doit disparaître. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder sur notre passé. Il faut se réconcilier avec ça. Donc, il faut arrêter d'accuser les hommes, la domination masculine.
Bien sûr.
Elle est là. Il faut que ça change. Et voilà. Et elle parle beaucoup de la nécessité plutôt de monter d'un grade. Et moi, c'est là-dessus que je veux me battre. C'est-à-dire qu'elle parle d'une nécessité féminine pour cette terre en général.
Bien sûr.
Et elle dit que elle trouve que les féministes déclarés porte-parole en ce moment je ne sais plus comment elle le dit, je ne voudrais pas la trahir. Si on a une minute...
T'as tout ton temps.
Voilà. Et là-dessus, les féministes sont de petites joueuses. Le féminisme s'occupe de la question sociale et politique, mais il y a une dimension ésotérique, métaphysique, spirituelle qui dépasse ça. Je pense que si l'on accède à cette dimension-là, on peut admettre l'idée que les problèmes qui se posent à nos sociétés aujourd'hui n'est pas celui de l'égalité entre les sexes, ni même de la complémentarité, mais du fait que la force féminine a dû refluer pendant tellement longtemps qu'il ne faut même pas qu'il y ait une égalité en ce moment de cette force, il faut qu'elle soit dominante. Mais pas du tout le matriarcat, le féminin. C'est-à-dire que moi, je suis plus pour cette vibration féminine. Le monde a manqué de vibration féminine.
Je suis d'accord. Tu parles en termes global, c'est-à-dire que les attributs d'une femme ou les qualités d'une femme sont ce qu'on attribue aux femmes, on va dire ça comme ça, deviennent indispensables, pas uniquement dans le rapport homme-femme,
c'est-à-dire,
mais plus
je
à l'échelle
qu'il y a une vraie vibration
de
féminine
plusieurs rapports.
Et qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, entre l'inné et la caisse, je ne veux pas dire que la femme est plus douce, je ne veux pas dire que la femme est. Je veux dire que pour moi, mais moi je le ressens, donc c'est difficile, moi je le sens cette vibration, c'est que c'est pour moi la dimension féminine, elle est dans une sorte de pacification. Elle est dans une sorte de... moi, je la vois comme quelque chose, effectivement, de très nourricier. Mais ça, c'est pour la terre. Et elle dit bien, Leonora Milano et d'autres le disent, et je le pense aussi, c'est que cette vibration féminine, elle est chez les hommes aussi.
Bien sûr.
On est, voilà. Donc,
je pense
quelque chose...
C'est ça, la prochaine révolution, finalement.
Exactement.
C'est que les hommes acceptent leur part féminine.
Oui, mais il faudrait déjà qu'on leur dise, gentiment, déjà. Et puis que... Et voilà, qu'on fasse résonner en nous ces vibrations. Et elle a dit, parce que rechercher l'égalité, là par exemple, rechercher l'égalité des salaires, tout ça, bon, tout ça c'est très bien. Mais rechercher l'égalité en termes général de l'homme et de la femme, elle dit, on devrait regarder dans quel contexte. On devrait se demander si c'est pas plutôt le contexte qu'il faut changer aussi, parce que l'égalité dans le capitalisme, on va continuer à servir quelque chose qui va desservir le monde. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est une barbarie, donc l'égalité dans la barbarie, au fond. Donc, elle amène à penser beaucoup plus haut. Elle amène beaucoup plus haut à penser. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on agisse en même temps sur deux moments.
Bien sûr.
Le moment aujourd'hui, effectivement, égalité des salaires, contre la violence faite aux femmes, tout ce qu'on est en train de déblayer, mais qu'en même temps, on ait cette vision un peu pour après, que ce féminin ne soit pas écrasé non plus. Parce qu'il faut faire très attention, parce que si on dit qu'il y a une vibration féminine, on va nous dire, ouais, ça c'est tout, tu te fais avoir par les injonctions, par les mâles, par tout ça. Non, et comme le rappelait Michel Perrault, elle le dit, la domination masculine n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour les femmes, bonne pour les homosexuels, elle n'est pas bonne pour les personnes handicapées, elle n'est pas bonne pour les hommes eux-mêmes, à qui Elle a demandé d'être virile, d'être guerrière.
Mais c'est
de...
ça. Et même les hommes aujourd'hui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Hein.
Mais
je pense
tout à
qu'il y
fait.
En a beaucoup
mais
qui se posent cette
que,
question.
Mais est-ce que, par exemple, ce que je viens de dire là, est-ce que on le voit sur les plateaux télé, dans les radios?
Non, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est pas encore le moment. Ça va peut-être venir, mais j'ai pas l'impression que c'est.
Il faut le saisir. Enfin, moi, c'est vraiment là vers quoi mon travail tend maintenant. C'est d'essayer de faire comprendre ces deux dimensions et faire la paix avec son passé. Parce que faire la paix avec son passé, c'est la même chose que pour le racisme, c'est la même chose que pour l'homophobie, c'est la même chose pour tout, pour l'esclavage. C'est qu'à un moment, ça n'empêche pas qu'on continue à travailler sur la mémoire de tout
Bien sûr.
Ça n'empêche pas, je ne dis pas ça, mais soyons en paix avec ça. Moi, je recevais au journal, je recevais comme ça, il y avait... Ce que j'adorais, c'était notre lectorat, parce que notre lectorat était très, très varié. Et surtout, pour moi, c'était une victoire immense. On avait 80% de nos lectrices qui étaient en province. On avait passé le périph, qui était pour moi le plus important. Il faut faire très attention à ce milieu parisien, parce qu'il vous bouffe, il vous limite.
C'est un microcosme.
Il vous toise, il vous attend au tournant. Et moi, je m'en fichais. Et heureusement, beaucoup aussi, on y est allé. C'était vraiment un travail d'équipe. Et nos lectrices, elles étaient trop contentes qu'on parle d'elles. Et certaines se disaient, pourtant, je suis pas féministe, mais bah, pas de problème, vas-y, dis ce que tu veux. Alors que c'était des nanas extraordinaires qui menaient leur vie, qui étaient dans une indépendance folle. Mais elle me dit, mais tu sais, moi, j'aime mon mari, j'aime être à la maison. Mais cool, sois à la maison, il n'y a pas de souci avec ça. C'était merveilleux. Et puis, on avait aussi des lectrices, alors très féministes, les anciennes. Et puis, alors, les petites nouvelles qui arrivaient. Qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, qui voulait faire pipi debout, ou qui voulait que les hommes fassent pipi assis. Enfin, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et j'ai oublié ce que je voulais te dire. Attends,
non, on parlait du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais que ça va peut-être venir. C'est-à-dire
on recevait des lettres au journal. On en a reçu une ou deux fois. C'était... On nous proposait de lancer un appel, pétition et tout, pour que les hommes s'excusent de tout le mal qu'ils nous avaient fait depuis le début de l'existence. Non. Ça va pas être possible, ça. C'est-à-dire, on va pas gâcher du papier pour ça, fait-on. Non, parce que sinon, on va demander.
En fait, tu es pour la paix des sexes.
Ah, mais complètement. De toute façon, notre destin est commun. Hein, je veux dire, notre destin, c'est l'environnement, c'est la migration, c'est la santé. Là, on a plutôt intérêt à être ensemble. Hein, MeToo, un an après, je trouve que c'est une vraie prise de conscience, que les langues se libèrent. Je pense qu'il y a une sorte de fraternité, de sororité, même dans la rue, qui se développe, on voit mieux choses.
C'est vrai.
Et en même temps, il y a cette petite partie, il faut y faire attention. Ou par contre, il y en a beaucoup, les hommes sont perdus. Les hommes sont perdus en disant, mais je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je dois acheter un bouquet de fleurs à ma gonzesse? Est-ce qu'elle ne va pas me renvoyer dans la gueule? Mais c'est normal. Le rapport homme-femme change. Il va falloir qu'on réécrive. Ça va être super. Moi, je trouve ça extraordinaire de vivre cette époque. On va devoir réécrire notre histoire, hommes et femmes ensemble. Mais par contre... Je suis pas toujours très contente vis-à-vis de certaines féministes autodéclarées qui soi-disant me représentent ou te représentent ou représentent notre voisin. Non, moi personne. Pour l'instant, personne me représente, personne. C'est pour ça qu'en plus on voulait pas être justement à cause d'être univoque, quoi. On voulait garder cette liberté parce que. Et là, je trouve un petit peu dommageable parce que je me rends compte, moi, maintenant que je suis retournée vraiment au réel. Je suis plus coincée derrière un bureau. Toute la semaine. Maintenant que je suis retournée au réel, je discute beaucoup avec les personnes qui m'entourent, que je croise pour différents autres projets d'ailleurs. Et en fait, beaucoup sont perdus. Ça, je le remarque, beaucoup sont perdus et me disent ouais, non, mais alors franchement, non, moi j'ai plus du tout envie d'être féministe, je suis plus féministe. Et il va falloir sauver ce mot parce que je pense qu'il est en danger et je pense qu'il faut avoir l'humilité. J'avais déjà fait ce. On avait déjà organisé ça dans Cosette. Le féminisme est-il un gros mot? Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire si ce mot est mal entendu, c'est qu'il est mal émis. Donc,
c'est vrai.
C'est quoi? Comment peut-on les mettre? Et quand j'entends des gens qui ne se remettent jamais en question, qui sont qui sont toujours avec le même discours, les mêmes poncifs, les mêmes chiffres. Alors, bah, par exemple, les chiffres sur les violences faites aux femmes. Mm-hmm. Donc, on dit que c'est... donc, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours. Alors ça, bien sûr, c'est grave. Il y a un homme tous les 13 jours. Et on arrive, le chiffre est très compliqué à trouver, presque à un enfant par jour, voire deux, dans la cellule familiale. Donc, il faut aller soigner vite, cette cellule familiale. Bien Comment sûr. Se fait-il que la plus petite cellule sociale, sociologique qui existe, qui est la famille, pourquoi il y a autant de morts par an ? Donc, je pense que pendant qu'on s'occupe des maris violents, je pense qu'on devrait s'occuper aussi de la violence intrafamiliale.
Bien sûr.
Les enfants meurent, des hommes meurent, des femmes meurent. Ils sont agressés. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on traite toujours un peu globalement le sujet. Mm-hmm. S'il n'y a pas que des femmes qui sont battues. C'est, bien sûr que c'est le plus grand nombre et qu'il faut s'en occuper de toute urgence. Et juste en même temps, ce serait bien de commencer à, sur les plateaux, à amener
justement,
cette question
voilà.
suivante.
On parlait de ça tout à l'heure avant d'appuyer sur le bouton start, mais tu me parlais du manque de femmes sur les plateaux aujourd'hui, mais tu parles de plateau de télé, tu parles de la radio, tu...
Bah, alors moi justement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas chercher. Moi, j'écoute, je vis ma vie et je suis abonnée quand même à beaucoup de fils Twitter, Instagram, tout ça. Donc, je vois à peu près ce qui se passe. J'essaie de regarder les infos à la télé. Je regarde des documentaires. Je me tiens informée. Je lis un peu la presse. Je lis la presse pas quotidiennement, mais je la lis beaucoup quand même. Et en fait, je retrouve toujours les mêmes... Je retrouve toujours les mêmes personnes qui disent toujours les mêmes choses. Et sur les plateaux télé, c'est peut-être encore plus flagrant et ils le justifient eux-mêmes. C'est, on doit, sur des quotidiennes, par exemple, on doit aller vite dans le choix des sujets. Donc, on a vu Machine à la télé, elle parle très très bien.
Elle se pose pas de questions.
Elle se pose pas de questions, ouais. Elle connaît son truc par cœur, elle le déroule. Mmh. Bah non, il faut changer. Moi, j'aimerais bien monter un petit collectif où on pourrait nous appeler en disant qu'on se fasse connaître avec, par exemple, les idées là, que je viens de décrire, qui ne nient en rien, d'ailleurs, le travail qui est fait par ailleurs, mais de dire, voilà, expliquer. Parce que je pense que, justement, tous ces gens que je croise et tout, s'ils entendaient ça, parce que moi, quand je leur parle, ils me disent, oh putain, enfin quelqu'un qui nous comprend.
Oui, c'est ça, mais il y a une forme d'hypocrisie, en fait, parce que c'est ça le sujet. Je pense que tout le monde est conscient de ça, mais que personne ne passe le cap réellement, tu vois, de changer les choses de manière concrète.
Oui, et puis je pense
aussi que trouver des gens qui sont d'accord avec nous, je pense qu'on en trouvera.
Plein.
Après, c'est comment on passe le cap et comment on switch.
Ben, je pense qu'il y a... Alors peut-être que moi, justement, dans ce que j'ai... peut-être dans l'ambition que j'ai maintenant, c'est peut-être avant, j'avais pas tellement envie de me dire je vais aller sur les plateaux et tout. Maintenant, je me dis, il faut préparer quelque chose de bien. Regardez, j'ai presque envie de monter un petit collectif où on soit plusieurs dans des domaines un peu différents, mais où on ait cette pensée un peu plus visionnaire, quoi. Mmh. On voit un peu plus demain,
un peu plus loin.
Enfin, voilà, un peu plus loin en migrant, en intégrant tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui va changer le paradigme. Ce monde est en train de changer de paradigme.
Bien sûr. Et ça n'englobe pas que le féminisme, non. C'est plein de sujets.
C'est la migration. La migration,
justement,
ça va pas
s'arrêter.
Justement,
je voulais t'entendre là-dessus.
Ouais.
Parce qu'on en avait parlé une fois ensemble. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui se déroule actuellement ?
Ben, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Déjà, par le changement climatique, comme ça, tout est lié. Hein. Mmh. Et des réfugiés climatiques, il commence à y en avoir, pas beaucoup, mais il y en a. Mmh. Là, on a des réfugiés de guerre, de pays en guerre, de pays où on crève la faim, de... Bon. Et ces vagues-là, parce que là, pour le coup, j'avais quand même bien bossé le sujet au moment de l'Aquarius, il y a 2 ans. Et en fait, en creusant le sujet, on s'aperçoit, non, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fout, là ? Qu'est-ce qu'on fout ? On est là en train de se battre pour 58 personnes. Tu les veux pas. Mais c'est au niveau de l'Europe qu'il faut mettre des choses en route. On a essayé avec la Turquie, on les a payés, maintenant on nous fait payer aussi. Il y a cette Méditerranée qui est devenue un immense cimetière. Mais ça, c'est pas la peine de mettre les miettes sous le tapis, hein, parce que le tapis va être rongé de toute façon. Donc il faut totalement réinventer. Il faut se dire oui que il est probable que la France, on sera sûrement pas tout blanc d'ici 2-3 générations. Mais c'est pas tellement un problème ça quand même. Si on construit ensemble, après effectivement comment on répartit, il y a des histoires de géographie, on oublie trop la géographie, il y a des histoires de géographie, moi je ne suis pas du tout experte, mais même ce qu'a fait le président italien, même si j'aborde ce qu'il a fait, eh ben, il a quand même renvoyé à leur responsabilité les autres pays, parce que peut-être que l'Italie en avait peut-être un peu ras-le-bol aussi de prendre tout le monde. Ils ont fait quand même beaucoup de choses. La Sicile fait énormément de choses. Il y a une femme, la mère de Sicile, qui est extraordinaire. Elle accueille ses migrants. Il y a plein de gens, les associations, il y a plein de gens extraordinaires. Mais ça va, il faut... Là, il faut vraiment réfléchir. Là, c'est global, hein, de toute façon. Et je ne comprends pas qu'on continue à parler juste, il y en a 100 qui arrivent, on en fait quoi? Il va falloir les prendre. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas comment on va faire, on va faire de la place. Et puis, je ne sais pas, on va voir.
On pourrait parler des heures avec toi, puisque tu es passionnante.
Merci.
Non, mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir aussi conclure. Mais de toute façon, tu te rendras disponible, je suppose, pour les auditeurs, puisque... À mon avis, non seulement tu es passionnante, mais en plus tu es abordable et tu réponds toujours. Est-ce que, pour conclure, tu as une recommandation, un coup de gueule, un message à faire passer? Enfin là, tu as fait passer des messages, c'est déjà super bien. Mais est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose que tu as envie de faire passer pour conclure?
Moi, le grand coup de cœur que j'ai découvert depuis 2 ans, c'est la joie. C'est-à-dire que j'ai découvert ça parce que, en fait, on chasse tous le bonheur, on chasse tous.
Je suis bien d'accord.
Et puis, j'ai découvert la joie et j'ai découvert ce qu'elle avait de complètement autonome. C'est quelque chose qu'on gère pas. C'est quelque chose qui arrive même dans les moments très douloureux. Il y a toujours un peu de. Ça arrive là, des fois, c'est vraiment. Tu te dis, mais c'est pas possible, je peux éprouver de joie dans un moment comme ça. Et cette joie doit nous aider. Je pense que c'est une raison de vivre et que cette joie doit nous aider dans nos combats. Ils doivent être absolument pas toujours joyeux, parce que quand on parle par exemple des violences faites aux femmes, c'est pas très très joyeux, mais par contre que notre projet soit joyeux, que notre projet soit de nous en sortir. Moi, c'est mon grand coup de cœur, c'est ça. Mon grand coup de cœur, c'est de toute façon, c'est aussi l'entraide entre nous, la compréhension. Je pense qu'il faut bien écouter, il faut répondre aussi, il faut répondre. Je trouve que les gens font... On est très sollicités, mais on répond peu. Moi-même, je n'ai pas toujours bien répondu, mais quand j'ai été très sollicitée, mais j'avais quand même embauché quelqu'un pour répondre aux demandes d'emploi, aux demandes de pige, aux réflexions, etc. Et là, j'y pense parce que j'ai une amie qui travaille à Pôle emploi et elle me disait que les demandeurs d'emploi, maintenant, ils font leurs demandes, mais ils n'ont plus aucune réponse. Oui. C'est-à-dire que ça devient tellement massif qu'ils doivent considérer que quand tu n'as pas de réponse, c'est non. Mais à partir de quand on n'a pas de réponse? 8 jours, 15 jours, 2 mois? C'est, et dans leur détresse, c'est la pire des choses, le silence. Donc, je pense qu'il faut, nous... Alors, c'est bien beau de dire Macron, le président de la République est un tocard, etc. Je voudrais qu'on m'explique la différence avec les précédents. Et en fait, je trouve que... par contre, mon coup de gueule, c'est que je trouve qu'il y a une forme de militantisme extrêmement feignant. C'est-à-dire qu'on like, qu'on va défiler, Bastille Nation, on rentre chez soi, c'est fini. Je pense que ce qu'on a à faire, le combat qu'on a à mener, c'est tous les jours, quoi qu'on fasse nos courses, qu'on fasse, qu'on lise un livre, qu'on aille assister à une conférence. Voilà. Et surtout que c'est eux qui ont la plus grande gueule. Donc là aussi, ça me saoule. Là, les grandes gueules, ça me saoule bien. Hein. Mais par contre, je pense qu'il va falloir y aller. Et que malheureusement, ceux qui y vont sont très excités par le pouvoir. Alors moi, je ne le suis pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie. Mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve un autre petit truc qui nous excite pour nous pousser à prendre la parole. Et puis peut-être que... j'ai retenu, moi, cette phrase qui me guide. Enfin non, j'en ai 3 phrases qui me guident.
Vas-y.
Ça fait trop.
Mais non, t'inquiète pas. Vas-y, Liliane.
Alors, il y en a une. C'est bah, par exemple, oui, je l'adresserai à pas mal de gens que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, c'est voilà, à force de touiller la merde, faut pas penser que ça va devenir du chocolat. Donc voilà, je m'adresse aux grands de ce monde, pour les migrants, pour les machins, voilà, pour les autoproclamés féministes, etc. Et puis voilà, quand on est un peu trahi dans sa vie, quand on vous fait du mal, de penser à ce que le comédien Patrick Devers disait, quand ton meilleur ami te baise, surtout ne bouge pas, il pourrait jouir. Je vous donne des leçons de vie. Et
j'adore.
Puis, ah voilà, et cette phrase qui me porte, et je pense qu'il nous porte, enfin toi, enfin les gens avec qui je suis à présent, c'est Albert Camus. C'est une phrase d'Albert Camus au cours de la réception de son prix Nobel. C'est le discours qu'il fait en 1957. On sort de la guerre. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voilà, on changera peut-être pas le monde, mais peut-être qu'on peut éviter qu'il se défasse.
Bah écoute, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Liliane.
Merci à toi.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.